La question de la désirabilité pour moi, c'est d'abord identifier quelque chose qui va être utile. Une fois qu'on a l'utilité, il ne faut pas uniquement faire des produits qui sont utiles, hein. Faire des produits qui soient utilisables.
À l'origine de ce sujet, une vidéo de Don Norman. À 84 ans, le designer et auteur de Design of Everyday Things se demande pourquoi tant d'objets destinés aux seniors sont si mal conçus. Est-ce vraiment le cas ? Comment rendre désirables les produits et les services destinés aux seniors ? Enfin, comment définir une personne senior ? Dans le premier chapitre, nous nous attachons à mieux définir cette catégorie de la population et la structure économique qui lui est attachée. Dans le deuxième chapitre, au travers d'exemples concrets, nous explorons le cadre à donner à la démarche design pour créer des produits et services destinés aux seniors, les biais possibles et comment les éviter. Enfin, dans le troisième chapitre, nous envisageons concrètement les enjeux éthiques attachés à la démarche du design pour les seniors et nous tentons d'apporter une réponse à la question posée par Don Norman. Comment repenser la désirabilité des produits et services destinés aux seniors ? Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles. Design Masterclass, c'est aussi un livre, Pratiques modernes du design, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Chapitre 1. Les seniors, un marché ?
Prenons un déambulateur, par exemple. Les gens qui ont des problèmes d'arthrite ou des douleurs dans les membres ont un déambulateur qui les aide. Et donc, ils sont penchés comme ça et essayent de déplacer le déambulateur. En faisant cela, ils envoient un signal stigmatisant au monde. Et ce signal dit « Je suis vieux et infirme, je ne suis plus bon à rien ». Et quand vous voyez des gens qui utilisent des déambulateurs, vous vous dites souvent « Oh, ils sont lents, ils sont faibles d'esprit, je dois leur parler lentement et fort ». Ce n'est pas vrai, ils vont parfaitement bien, ils ont juste du mal à marcher. Mais le déambulateur est tellement mal conçu. Déjà, il est conçu pour être bon marché, 29 ou 30 dollars. Et donc, il est juste composé d'acier tubulaire. On dirait qu'un ingénieur a cherché le moyen de le réaliser en faisant toutes les économies possibles. Et ils sont moches. Beaucoup de gens en ont besoin, mais refusent de les utiliser, parce qu'ils ne veulent pas envoyer au monde ce fameux signal.
Don Norman, 84 ans, constate les effets du mauvais design dans son quotidien. Dans un monde vieillissant, dans lequel nous vivrons centenaires, ce constat interroge. En France, en 2019, 20% de la population avait plus de 65 ans. En 2070, ce chiffre sera de 30%. Mais comment peut-on définir les seniors ? Lisa et Antoine font l'exercice.
Je m'appelle Lisa Potier, je suis responsable recherche et développement chez Allogia Group depuis 2017.
Lisa Potier, chercheuse en design et designeuse chez Allogia Group, groupe spécialiste dans le diagnostic et l'adaptation du domicile pour les personnes âgées.
Un senior, finalement, c'est une personne, c'est vous, c'est moi. Dans quelques années, c'est juste quelqu'un qui a vécu longtemps. Donc, il n'y a pas de définition, de caractéristique inhérente à un senior. Pour le coup, c'est une population qui est hétérogène, puisqu'on parle de senior en fonction des domaines à partir de 40 ans, à partir de 50 ans. Si on parle de personnes, on ne peut pas faire un groupe de personnes de 50 ans à 110 ans en estimant que ce sont des populations identiques. Donc pour moi aujourd'hui on peut pas faire un groupe uniforme des seniors ou des personnes âgées. C'est vraiment en fonction des conditions de vie de chacun et des personnalités également, puisque voilà, on va pas tous vivre de la même manière, à la fois parce qu'on a des caractéristiques intrinsèques de santé qui font qu'on ne va pas vieillir de la même manière, et à la fois parce qu'on a des habitudes de vie et on fait les choses différemment. Et donc voilà, on est tous différents, et donc les seniors, ce sont juste des personnes qui sont elles aussi toutes différentes.
Antoine Gérard, moi aujourd'hui je suis le cofondateur de Bistro Berta, qui est une start-up qui vise à remettre l'EHPAD au cœur du village.
Antoine Gérard, sociologue et UX researcher, fondateur de Bistro Berta.
Déjà, c'est un terme que moi, j'utilise pas, que j'aime pas du tout. Ça fait vraiment très catégorie marketing. Moi, je vais partir du principe qu'on est vieux, parce que c'est le mot que j'utilise, quand on doit faire face à un certain nombre de contraintes qui sont liées à notre âge, mais qu'on a de moins en moins de ressources pour y faire face. Une autre manière de comprendre ce qu'est être vieux, c'est de partir du principe qu'il y a trois effets différents qui se mettent en place. D'abord, un effet de génération. Être vieux, c'est d'être né dans un monde qui est complètement différent de celui d'actuellement et d'avoir vécu tout au long de sa vie des époques différentes qui chacune vont marquer à leur manière. Et donc, il y a déjà une différence de génération. Et ça, c'est important. Premier point, effet de génération. Deuxième point, effet de parcours de vie. Parce que quand on est vieux, on ne redémarre pas d'une page blanche. On est plutôt le fruit de toutes nos expériences passées. Il s'est passé plein de choses qui nous a fait de notre parcours quelque chose d'unique. Et ça, ça a un énorme impact sur qui on est quand on est vieux. Et puis le troisième élément, c'est l'effet d'âge, évidemment. On a une sorte de rattrapage de notre âge et qui arrive et avec des contraintes nouvelles, qui sont des contraintes de regard des autres, de modification de l'identité, de solitude, parce que peut-être que nos amis sont décédés, notre fratrie ou alors notre conjoint. Bref, on a ces trois effets-là qui viennent se conjuguer.
Face aux besoins croissants d'une population vieillissante, la silver economy est née. Paul et Antoine détaillent les spécificités de cette nouvelle branche économique tournée vers les seniors.
Je m'appelle Paul Labo.
Paul Labo, chef de projet prospective et innovation chez Eneal, opérateur d'EHPAD et de résidence autonomie.
En fait, je pense que la silver economy, alors déjà, la filière, au final, elle est jeune. Elle fête aujourd'hui ses 10 ans. Donc c'est assez jeune. Je pense qu'elle vient un peu matérialiser un marché qui auparavant était invisible. Et une fois de plus, c'est pas qu'un marché, c'est une foultitude de micro-niches et de micro-marchés. Je pense qu'elle vient rappeler, qu'elle vient mettre le doigt sur le fait que quand on conçoit un produit grand public, en gros on le conçoit pour 80% de la masse, il y a 20% à la marge. Dans ces 20%, il y a quand même une bonne partie de seniors. Et donc, quelque part, elle vient un peu, c'est vraiment ma vision, hein, mais elle vient un peu mettre le doigt, elle vient un peu rappeler que les seniors sont là, que les seniors ont des souhaits, que les seniors ont des désirs, et qu'on peut, en tant que porteur de service, créer un business dont les clients sont principalement des seniors. Je pense que la limite de l'exercice se trouve dans justement le fait que l'on conçoive uniquement pour des seniors. Ou en tout cas, si au final on n'a que des marchés de niche, c'est compliqué pour trouver avoir une certaine inertie, avoir un certain poids et pouvoir justement, entre autres, diminuer des prix des coûts de conception, etc. et faire en sorte de rendre des produits et des services accessibles.
La notion de silver economy est une notion administrative, en fait, avant d'être autre chose. Néanmoins, elle a le mérite d'exister et on va dire que la silver economy, ça regroupe l'ensemble de l'économie des produits et services à destination des 60 ans et plus, on va dire des retraités. La question de l'homogénéité de cette catégorie, elle est intéressante, mais si on y réfléchit deux secondes, on voit bien qu'entre 60 et 100 ans, il y a 40 ans. Ça revient un peu même de dire je vais faire le même produit pour quelqu'un qui a un an et pour quelqu'un qui en a 45. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Et ben, chez les vieux, c'est pareil. Ça n'a pas vraiment de sens de la considérer comme une seule et même catégorie. Et donc, non, les besoins ne sont pas communs, on va dire, d'une décennie à une autre, d'un genre à un autre, d'une situation conjugale à un autre, d'un parcours de vie à un autre, d'un revenu à un autre. Évidemment, toutes ces catégories-là sont bien plus impactantes que juste un effet d'âge. Donc, il n'existe pas une catégorie senior unique, en tout cas de mon point de vue, même si on peut dire qu'il y a un marché, le marché de la silver economy qui s'adresse aux retraités, finalement, à l'intérieur, la notion de senior n'a pas vraiment de sens, quoi.
Première explication au manque de succès des produits destinés aux seniors, le fait même de leur dédier exclusivement ces produits. Antoine développe cette idée.
Est-ce qu'il faut faire des produits pour seniors et le dire ? J'ai envie de dire que la réponse de principe, c'est que c'est non. Les gens ne veulent pas être identifiés seniors et ils trouvent ça stigmatisant. Et donc, mieux vaut partir sur un produit soi-disant universel, même si on sait bien que ça s'adresse aux seniors. Ça, c'est la réponse, on va dire, de niveau 1. Que je recommanderais à 90% de mes clients, s'ils n'arrivent pas à faire habilement la réponse de niveau 2, qui est de dire que, en fait, les gens, ils savent très bien qu'ils sont vieux. Il suffit juste de leur dire et de leur dire habilement, en fait, que le produit est fait pour eux et ça fonctionne. Et donc, moi, je trouve ça plus intéressant de réussir à habilement faire comprendre que oui, c'est un produit pour senior, mais pas pour n'importe qui, etc. Et que le fait qu'il soit senior, le fait qu'il soit vraiment adapté, parce que finalement, les gens, ils savent très bien qu'ils sont vieux. Ils peuvent pas se mentir à eux-mêmes, ils le savent. S'ils se sentent pas insultés par le produit ou par la manière dont est fait le marketing, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La réponse commune, c'est non, faut surtout pas en faire parce que les vieux se sentent mis dans une case et ça leur plairait pas. La réalité, c'est que quand c'est bien fait, on adore acheter des produits dont on a l'impression qu'ils sont faits pile poil pour nous. Et pour ça, moi, j'ai ma méthode en tant que UX-rechercheur, c'est vraiment d'aller dans la tête des gens pour essayer d'identifier le point de douleur qui est vraiment critique, pas celui qui est verbalisé, celui qui est vraiment au fond, et de faire en sorte de faire correspondre la solution à comme étant une réponse à ce point de douleur. Maintenant, c'est pas le seul élément qu'on peut mettre en place. Je crois que moi, les produits qui me semblent qui fonctionnent sont mieux, c'est ceux qui assument un peu le côté on est vieux, ça c'est, y a pas de doute, mais c'est pas une fatalité, on va prendre ça un peu à la légère, on va en rigoler, on va assumer quoi. Moi je pense que où on met les pieds dans le plat et on se prend pas au sérieux, on fait les choses bien, proprement, etc. Ou alors en effet, si on n'est pas très à l'aise avec ça, mieux vaut qu'on prenne un peu nos distances.
L'approche start-up, souvent fondée sur la technologie numérique et l'accompagnement public, peut également entraîner des erreurs de conception.
Je pense que la première erreur, c'est d'abord penser digital, alors qu'une solution non digitale existe et serait 10 fois plus simple et permettrait d'avoir le même résultat aussi facilement. J'ai l'impression quand même que les gens cherchent à faire des applications pour des choses qui n'en ont pas besoin. Ça, je pense que c'est le premier point. Ou des sites internet, des trucs d'information, etc. Non, le problème auquel l'application cherche à répondre n'est pas un problème parce que les gens ont déjà trouvé une réponse à cette solution qui est non digitale, certes, et donc, du point de vue du start-upper, un peu moins optimale. Oui, mais du point de vue de l'utilisateur, il a la réponse à son problème, donc il n'y a pas besoin de changer, quoi. Et donc, la plupart des échecs vient du fait que la solution naturelle actuelle des personnes, même si elle n'est pas optimale du point de vue du start-upper, est largement suffisante. Et donc, ils font des choses pour rien. Ils font des choses qui ne répondent pas au problème, parce que le problème n'est pas vraiment aussi criant que ça. Donc ça, c'est mon premier point de vigilance. Assure-toi d'avoir un vrai... de répondre à un vrai problème et que la solution actuelle soit vraiment mauvaise avant de te lancer dans le développement de quoi que ce soit, et teste-le de manière non digitale avant de vouloir faire une application, quoi. Si ça marche de manière non digitale, et si tu te dis « Ok, je peux gagner vraiment en termes d'expérience en passant en mode digital, ok, pourquoi pas ?» Là, ça a du sens. Quand c'est des choses qui pourraient être faites non digitalement, essaye non digitalement, et au moins ça te coûtera moins cher de développement, et tu verras s'il y a du sens, quoi. Après, évidemment, si c'est de l'IA que tu veux faire, t'as pas le choix. Il te faut une interface, etc. Mais ça, c'est le premier point que je vois vraiment souvent. Deuxième point, c'est la solution qui veut tout faire et qui en oublie ce qui est vraiment important. Et donc, il n'y a pas de hiérarchisation dans les fonctionnalités, dans les réponses aux besoins, etc. Troisième erreur, c'est pour moi des personnes qui n'arrivent pas à avoir un double langage entre investisseurs et cible commerciale. Ils vont avoir un discours pour des investisseurs, des partenaires, on va dire, du secteur, avec des mots comme intergénérationnel, inclusif, etc., des choses qui font bien plaisir à tous les incubateurs et compagnie, mais qui n'ont aucun sens, mais aucun sens pour les personnes qui veulent acheter le produit. Si bien que personne n'achète leur produit. Et donc ça, pour moi, c'est une erreur dramatique. Je pense qu'il y a trop de produits qui sont créés, qui auraient pu être bien, mais qui se concentre sur ouais, il faut que la CNAV, il faut que la GIRC-ARRCO, il faut que la CNSA valide mon produit. Mais non, les seuls qui doivent valider ton produit, c'est tes clients. Soit tu fais des ventes, soit tu fais pas de ventes, point. Et je crois que les gens, ils veulent pas faire de ventes. Ils espèrent que l'État finance leurs produits pour leurs usagers. C'est dramatique.
Chapitre 2, le design pour les seniors, en pratique. Une catégorie de population aux contours flous, des erreurs possibles dans l'approche marketing et une structure de marché qui ne favorise pas toujours une conception centrée sur les besoins. Voilà déjà quelques réponses à l'interrogation initiale de Don Norman. Mais qu'en est-il de nos pratiques de designer ? Comment bien designer pour les seniors ? Nous avons souhaité mettre en avant deux projets de design particulièrement significatifs dans leur approche. Eva a initié un projet en EHPAD qui porte le joli nom de Narcisse à 85 ans.
Je m'appelle Eva Hardy, je suis designer objet espace. Je me spécialise dans le milieu médico-social avec pour étoile de berger la philosophie du care.
Eva Hardy, designeuse et cofondatrice du studio Stimuli.
Je m'intéressais donc à la question de l'estime de soi des personnes âgées en maison de retraite et comment cette estime pouvait être mesurée, évaluée, tout en étant attentif à la question du soin du corps et est-ce qu'en apportant un meilleur soin au corps des personnes âgées, cette estime pouvait être augmentée, maintenue à travers l'âge. Je trouvais que c'était une question qui n'était pas abordée, rarement, voire pas du tout abordée dans le design. Ce que j'avais fait avant de me lancer dans ce travail, c'était une enquête de terrain, une enquête sur tous les objets dédiés aux personnes âgées. Et ce qui revenait abondamment dans le mobilier, les objets dédiés aux personnes âgées, c'était la question de confort, d'immobilité et de mobilité. Donc on avait tout un arsenal de fauteuils, cannes, déambulateurs, vraiment tout le corps à l'état mobile ou à l'état de repos. Et je me suis dit que, étant moi-même très intéressée par tout ce qui est de l'univers de la coquetterie, du soin de son image, je me suis dit que cette question-là n'était pas abordée quand on parlait des personnes âgées. Cela implique une question sous-jacente, c'est la question du regard que l'on porte à soi-même quand on vieillit, la question de l'agisme, surtout avec une intention féministe de ma part sur le regard des femmes quand on vieillit, et une question aussi sur la notion de séduction à travers l'âge et comment les personnes âgées sont peut-être, je suppose, parfois perçues comme non séduisantes par la société plus jeune. J'ai donc mené une démarche d'abord théorique, donc une enquête sur l'existant, des enquêtes en sociologie, philosophie, sur ces questions donc d'estime, déjà qu'est-ce que l'estime de soi, qu'est-ce que le corps, que sont les représentations du corps à travers l'âge. Et j'étais tombée sur plusieurs ouvrages qui m'ont fortement influencée, notamment sur les ouvrages de David Le Breton et de Alexandra Midal pour la partie design et Fabrice Midal, le philosophe, pour la question du narcissisme et en fait comment le mythe de Narcisse a été détourné pour parler de quelque chose d'absolument ignoble, alors qu'en réalité c'est plutôt une façon de se retrouver, d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres, d'où le nom Narcisse à 85 ans.
En développant un objet de massage au travers de ce projet, Eva questionne le rapport au corps.
Le projet d'objet de toucher massage a été inspiré d'une lecture sur le fait que les personnes âgées sont la population la moins touchée, qu'elles reçoivent le moins de toucher dit toucher affectif, de par l'éloignement de la famille, souvent la perte du conjoint-conjointe. Par conséquent, elles reçoivent moins de contacts physiques et il y a eu une étude qui m'a marquée dans la revue des soins infirmiers qui avait démontré que le toucher affectif avait une influence sur cette question d'estime de soi et que perdre le contact, très littéralement, pouvait créer un sentiment anxieux menant possiblement à des choses encore pires. Donc je voulais, d'une certaine façon, rétablir le contact grâce à ces objets. Ce que m'avait dit Fabienne Jolivelle, la socio-esthéticienne avec qui j'ai travaillé sur ce sujet, c'est que certaines personnes refusaient le contact direct à force d'être trop manipulées dans des moments de soins ou d'hygiène qui sont absolument nécessaires, avaient le sentiment parfois d'être un peu réifiées, donc étaient un peu frileux à l'idée du contact direct. J'ai donc voulu créer un objet médiateur entre le corps du soignant et soigné, au sens large du terme, c'est-à-dire entre celui qui reçoit et celui qui donne le soin, et un objet qui fascine un petit peu et qui sorte d'une esthétique médicale, donc un objet en verre et céramique, qui évoque un peu plus d'élégance et de beauté, si j'ose dire.
Nous nous arrêtons sur un deuxième projet intitulé Bistro Bertha, porté par Antoine.
Bistro Bertha, c'est mon projet actuel. On construit des bistros au sein des EHPAD et on construit un réseau de bistros en EHPAD. Le but de ça, et c'est vraiment le constat qu'on a de départ, c'est que les gens ne sont pas bien en fait en EHPAD. Certes, ils n'ont pas envie d'y aller, mais même au-delà de ça, ceux qui y vivent, pour beaucoup, sont assez malheureux. On a des problématiques d'isolement, de solitude, on a des problématiques de santé mentale, on a des proches qui ont du mal à venir parce que c'est pas sympa, c'est pas une bonne ambiance. On a les relations qu'on a, on les a avec les équipes qui sont toujours dans un registre soignant. Bref, c'est pas hyper sexy, la vie en EHPAD, c'est pas facile. On pourrait me dire que non, mais c'est pas le but d'être sexy, le but c'est d'être efficace, que ça soigne, etc. Je crois pas. Je crois que quand on a 90, 95 ans, et qu'on n'a pas de. On ne guérit pas du vieillissement, hein, c'est pas une maladie, hein, on va pas guérir du vieillissement, on devient vieux, point final. Ça fait vraiment partie du cycle de vie et qui va mener à la mort. Je crois que c'est au contraire un moment où on a besoin de plus. De plus de vie, de plus de relations, de plus d'humanité dans ça. Il y a eu quelques initiatives qui ont déjà été faites de part et d'autre en France depuis une trentaine d'années, mais vraiment très à la marge et pas du tout sur notre modèle. Quand on a décidé de se lancer là-dessus, on a été voir toutes ces initiatives, on a discuté avec elles, etc., pour essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là et surtout ce que ça avait provoqué chez eux. Et il y a quand même un constat un peu sans débat, c'est que ça va naturellement infuser tout un tas de changements qui vont à la fois imprégner tout l'établissement, mais qui vont surtout aider à faire prendre conscience à tous les autres acteurs qu'un autre EHPAD est possible, en fait. Et donc ça, c'est assez intéressant.
Antoine entre dans le détail et explique en quoi le fait qu'il soit designer entraîne un processus de conception particulier.
On a des EHPAD qui candidatent pour qu'on installe un Bistro Bertha chez eux. Ils vont mettre à disposition un espace qu'on aura rénové, aménagé, sur lequel nous, on va installer le bistrot. Le bistrot, c'est un petit commerce indépendant, c'est-à-dire que on va venir mettre un comptoir, faire la décoration, le mobilier. On va y mettre un bistrotier intérieur, un bistrotier indépendant, et c'est un petit commerce, donc il va devoir faire son chiffre d'affaires auprès de ses clients, de l'EHPAD, mais surtout de l'extérieur du territoire, pour que ça fonctionne et se rémunérer là-dessus. L'enjeu, c'est pas de créer un commerce et de voir si le commerce fonctionne. Le vrai test, la vraie implémentation, c'est la capacité à convaincre, on va dire, des financeurs, des autorités administratives, l'ARS, que c'est une bonne idée. Et donc, il fallait tester à grande échelle ce système-là. Et donc, comme c'est ça l'enjeu du test, on est parti avec 8 établissements qui ont tous des dynamiques un petit peu différentes à l'intérieur. Tu vois, des fois, on en a un, ça s'appelle un Bertha Mobile. C'est un food truck qui est réparti sur 10 établissements. Il y en a un, c'est une Bertha Box. C'est un bâtiment externe qu'on vient apposer dans le jardin. Enfin, en l'occurrence, là, c'est sur le toit d'une résidence. Pour faire un bistrot, etc. Et donc, on a à chaque fois des choses qui sont un peu différentes, des contextes qui sont un peu différents, etc. Et nous, on avance comme des designers, quoi. C'est-à-dire que on part du principe qu'on ne sait pas par avance ce qu'il faut faire, que c'est la réalité du terrain qui va nous dire ce qui est des bonnes idées, qu'il nous faut une agilité pour pouvoir s'y adapter. Et donc, ce qu'on se permet là, c'est des tests, c'est un maximum de tests d'un coup, quoi. Comme on est des designers, on tombe pas dans ce bullshit habituel du « faut faire des groupes de travail », etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une première landing page qui dit « voilà ce qu'on fait, si ça vous intéresse, candidatez ». On l'a ouvert quelques semaines. Au bout de dix jours, on avait déjà une vingtaine, une trentaine de candidatures. On a fait quelques entretiens, on a essayé de comprendre les trucs. On a réajusté, on a recommencé. on s'est dit, OK, on a une problématique autour de l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on faisait déjà des groupes d'analyse de pratiques professionnelles, donc on savait que c'était pas un vrai problème. On s'est dit, OK, eh ben, on va faire des bistrots éphémères et itinérants cet été pour montrer qu'on peut mettre de l'alcool dans les établissements, que les gens sont contents, etc. Donc, on a créé ça, on l'a lancé, on a fait 10 dates. Au mois de septembre, on s'est dit, on arrête, on passe à la version sérieuse. On a recréé une offre. On a laissé les gens se candidater à cette offre. On a reçu, je crois, 130 ou 140 candidatures. On refait les entretiens, on voit comment ça fait. On sélectionne les établissements et on avance comme ça. Pas de groupe de travail, on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent. Non, pas du tout. On a une idée, on laisse le marché décider si c'est une bonne idée ou si ce n'est pas une bonne idée. L'avis des gens, on s'en fiche complètement. Le seul truc qui compte, c'est ce qu'ils font, pas ce qu'ils pensent. Et c'est parce qu'on est designer qu'on pense comme ça.
Au premier rang des impératifs de design, pour les produits et services destinés aux seniors, on trouve l'accessibilité. Pourtant, nos invités y attachent une importance relative. Pour Paul, elle est nécessaire, mais insuffisante afin d'aboutir à une expérience véritablement optimale.
Clairement, les normes d'accessibilité, c'est pour moi une brique potentiellement indispensable pour justement permettre de jouir de son logement. Mais c'est pas assez. C'est d'ailleurs parfois malheureusement contre-intuitif, parce que la notion de norme et sa généralisation font que on oublie justement parfois l'individu et sa particularité. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est en tout cas dans du logement collectif, c'est juste la base. Mais on a beau avoir des couloirs larges de temps, des portes qui font cette taille et l'éclairage qui fait tant de lumens, c'est pas pour autant qu'on se sentira bien au sein de sa résidence. On peut également se sentir entre guillemets en danger au sein de cette résidence, ou vraiment ne pas être à l'aise. Pour autant, elle a respecté toutes les normes. Donc l'accessibilité, c'est juste la première brique. Et après, il y en a un tas d'autres pour rendre un logement convenable, ou en tout cas désirable pour un public senior. En fait, il y a une multitude de petits détails qui font ou défont une expérience, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est le cas pour n'importe quelle population. Mais par contre, pour un public senior dit fragile, c'est-à-dire que c'est radical dans l'appropriation ou pas du service, autant pour des générations plus jeunes, on va pouvoir s'accommoder de certains défauts de conception, on va dire. On va pouvoir détourner et avoir la plasticité pour trouver d'autres moyens. Pour une personne âgée, ce sera bien plus direct, et je pense que ce sera bien plus rédhibitoire et plus catégorique. Et c'est la même chose d'ailleurs pour le personnel qui peut les accompagner en résidence, parce que là on est sur un quotidien qui est déjà pas simple, déjà consommateur en énergie. Et donc si jamais on a des produits ou des services que l'on développe pour eux, et bah si y a un petit grain de sable dans les rouages, on peut être sûr que ce sera mieux au placard.
Antoine, quant à lui, met l'accent sur l'utilité et l'utilisabilité comme critère essentiel de conception.
Non, pour moi, il faut oublier les normes d'accessibilité. Il faut comprendre que si un produit est utile, si les personnes en perçoivent l'utilité, alors leur capacité d'apprentissage va être importante. Si le produit n'en vaut pas la peine, en effet, on va être assez peu patient pour l'apprendre, et donc il faut d'autant plus travailler l'utilisabilité. Maintenant, quand le produit répond à un vrai problème, même si l'utilisabilité n'est pas idéale, on va quand même s'en servir. Ça, c'est le point de base. Je vois trop de produits qui se veulent accessibles avant de vouloir être utiles. Non, il faut faire l'inverse. Il faut d'abord faire des produits utiles, et ensuite, oui, on peut faire en sorte d'être plus facile d'accès pour plus de monde, et que ça soit et pour qu'il soit au final plus utilisé. Mais s'il n'est pas utile, il sera pas utilisé, et donc l'utilisabilité ne sera même pas pris en compte. Maintenant qu'on a fait un produit qui est utile, l'utilisabilité, c'est pas seulement l'accessibilité. Certes, ça nécessite à ce que on prenne en compte les capacités différentes de la population à laquelle on s'adresse, qui encore une fois n'est pas la, ne sont pas les mêmes capacités qu'on s'adresse à quelqu'un qui a 70 ans que quelqu'un qui en a 90. Mais même si on prend quelque chose qui est plus vieux, un des premiers éléments de l'utilisabilité, c'est la simplicité. Et je pense qu'il faut aller vers des produits avec peu de fonctions. On a beaucoup trop de produits qui veulent tout faire parce que on se dit bah voilà il est complet, il fera tout. Non, il faut faire l'inverse. Un produit, une fonction, c'est quand même vachement bien. Ou une application, une fonction en fonction de dans quel univers on est. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Je pense que en termes d'accessibilité, on pense souvent personnalisation. Moi, j'ai une démarche exactement inverse. Je pense qu'au contraire, on doit être sur quelque chose de très peu personnalisé, quelque chose d'unique, qui laisse peu de choix de changer les choses, voilà. Pour que les gens se concentrent sur l'utilité et pas sur comment le rendre 1% ou 2% meilleur si je change la couleur du fond d'écran ou si j'ai la possibilité de mettre, j'en sais rien moi, un fond d'écran personnalisé. Ça n'a aucun intérêt.
La conception d'une offre de produits ou services destinés aux seniors implique une approche très globale. Plus que pour d'autres populations, le nombre de parties prenantes peut être élevé. Prescripteurs, proches aidants, personnel de santé, collectivités locales. Pour Lisa, l'approche design doit alors être systémique.
Je pense que quand on parle de design avec une orientation pour des projets, des solutions pour un public en lien avec le vieillissement de la société, c'est nécessaire de penser en termes de design systémique. On peut pas penser une solution hors sol. En tout cas, je pense que c'est pas viable sur le long terme si on réfléchit pas à son écosystème, à tout ce qui se passe autour, aux interactions. Enfin, à la fois, voilà, l'usager, comment il va se saisir de la solution, mais aussi quelles vont être les interactions des potentielles parties prenantes autour de cette solution ou autour de l'usager. Je pense vraiment que c'est indispensable de penser un design écosystémique. Et c'était un peu les idées de Papanek, par exemple, sur lui parlait de design responsable. D'une part, parce que le designer doit être conscient que ce qu'il crée, ça vient au monde et ça va avoir une influence. Et donc, il faut en prendre la responsabilité. Mais il y a aussi la question d'être responsable et de se rendre compte que quand on pose une solution sur un lieu, même virtuel, quand on parle de design de service ou quoi, il y a des répercussions. On est obligé de considérer ces répercussions et tous les liens qui vont se faire autour de la solution.
Les bilans que Lisa effectue dépassent souvent le cadre de l'adaptation de l'habitat.
Donc on va avoir un travail, en effet, sur l'aménagement du logement, de pouvoir circuler dans son logement, utiliser ses équipements, même si on utilise une canne, même si on ne peut plus lever les bras au-dessus de la tête. Enfin, voilà, il y a quand même cette question d'architecture, hein, vraiment très sur l'espace. Et l'adaptation, c'est aussi adapter la ville. Donc ça va être rendre accessible ne serait-ce que les trottoirs, les services, les commerces. Et rendre accessible, c'est encore une fois, c'est pas que physique. Par exemple, on va avoir les questions sur la communication. Aujourd'hui, quand on prend le bus, par exemple, si on est malentendant ou malvoyant, ça peut être très compliqué parce qu'en fait, c'est pas vraiment adapté. Et donc, il y a un travail de fond qui va être assez important à mener. Et pour le coup, ça engage en fait tous les acteurs de la ville. C'est vraiment, nous on travaille avec les bailleurs sociaux sur la question des logements. Et bien souvent, quand on travaille avec eux sur la mise en place de leur stratégie senior, il arrive un moment où on leur dit, mais par contre là, il va falloir travailler avec les acteurs du territoire, avec la collectivité, avec le CCAS, avec les services d'accompagnement à domicile. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, vu que le vieillissement, c'est juste, ça concerne tous les aspects de la vie. C'est vraiment, adapter au vieillissement, ça concerne tous les aspects aussi de la vie et de la ville.
Lisa détaille la démarche mise en place chez Allogia.
Concrètement, chez Allogia, on aborde une démarche design vraiment sous le mode projet, avec les phases classiques du double diamant, n'en déplaise à certains. Mais pour le coup, on est vraiment dans ces phases de diagnostic, collecte de données, donc à la fois en fonction des projets, mais de manière générale, on est quand même sur des données quantitatives et des données qualitatives. Pour nos données qualitatives, on a l'avantage d'avoir notre offre de services, qui sont notamment les appels de prévention Et donc là, ce sont nos ergothérapeutes qui appellent des personnes âgées. Et donc, ça nous laisse quand même beaucoup d'informations, beaucoup de données qualitatives sur les conditions des personnes âgées. Ensuite, on a la phase de diagnostic. Donc là, on va voir, voilà, concrètement, analyser les données qu'on a collectées et voir quels enseignements on peut en tirer. On va prototyper la solution. Donc là, voilà, ça va être soit des solutions plutôt techniques sous la forme d'outils, ou on peut aussi avoir, dans le cadre de certains projets, des pistes d'action, donc notamment pour nos clients, pistes d'action à mettre en place. Et en fonction des missions, on va tester ces solutions et mesurer l'impact. Ça dépend de où s'arrête notre mission pour le client. Et enfin, après, donc délivrer une solution finalisée.
Eva partage ses bonnes pratiques en tant que designeuse.
En ce qui concerne les bonnes pratiques, quand on s'adresse à des personnes âgées, et même quand on s'adresse à tout le monde, je vais être très, pour le coup, très égocentrée, mais je me demande, est-ce que moi, j'aurais envie de cet objet ? Est-ce que j'ai le désir de cet objet ? Est-ce que déjà j'en aurais l'usage ? Et est-ce que j'en aurais le désir ? Si je réponds à non, je réponds non à une de ces deux questions, le projet n'est peut-être pas très viable. En ce qui concerne cette fois-ci précisément les personnes âgées, j'ai toujours comme point d'attention le côté infantilisant que peut avoir certaines formes, certaines matières. Donc j'ai tendance à me pencher vers les matériaux issus de l'artisanat pour justement esquiver ce côté infantilisant. Je pense notamment à l'usage du plastique qui est assez récurrent quand on fabrique des choses pour les personnes âgées, notamment les objets quotidiens, les objets de la vaisselle, tout ça. Et ce que je veux absolument éviter, c'est qu'on ait le sentiment que cet objet pourrait se retrouver aussi bien auprès d'enfants qu'auprès d'adultes, aussi bien dans l'esthétique que dans les matériaux.
La co-création apporte également un bénéfice supplémentaire, pas toujours anticipé, dans l'appropriation d'une solution par des populations seniors. Eva et Lisa en parlent.
La bonne pratique vraiment évidente, c'est d'être à l'écoute, de considérer que les personnes à qui je m'adresse, à l'époque j'avais moins de 30 ans, elles ont 3 fois mon âge, elles ont par conséquent 3 fois mon expérience dans la vie, donc je vais pas leur apprendre grand-chose et j'ai tout à apprendre d'elles. Ce qui était très intéressant en interagissant avec les résidents et résidentes de l'EHPAD, c'est que, un exemple tout simple, premier jour, je fais une présentation sur ce qu'est le design, je dis que je m'intéresse aux matériaux de l'artisanat, je m'intéresse au verre, et là, une résidente me dit « mais je connais bien le verre, j'ai travaillé dans l'optique pendant 30 ans ». Et là, ça a mené un échange hyper intéressant, parce que j'ai appris de son expérience, elle me faisait des retours sur le travail de l'épaisseur du verre, des choses très techniques, auxquelles je m'attendais pas forcément, mais je savais que toutes les personnes devant moi avaient eu toute une vie avant que je les rencontre, et par conséquent, je peux apprendre énormément.
Je pense que l'avantage, l'atout de la démarche design, c'est justement ces différentes phases du projet et cette phase de diagnostic dans laquelle, en général, on va mobiliser les usagers. Et donc, en fait, le fait de mobiliser les usagers, on va déjà recréer des interactions, du lien social auprès de public qui, des fois, voilà, n'en ont plus beaucoup. Je pense à un projet qu'on avait mené avec l'OGEVI. On faisait une expérimentation de nouvelles technologies. Et en fait, au cours de l'expérimentation, il y avait des groupes de travail, je crois que c'était une fois par mois, où l'objectif, c'était de réunir les volontaires, les testeurs, pour les faire discuter de ce qu'ils avaient fait pendant le mois avec l'outil, voir si ça fonctionnait bien, s'ils avaient des problématiques, et puis présenter de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, un des résultats de cette expérimentation, c'était l'enthousiasme des participants à participer à ces groupes de travail. En fait, ils n'étaient pas plus emballés que ça par la techno. Par contre, ils étaient emballés par le format de l'expérimentation, rencontrer leurs voisins, discuter. Et en plus, il y avait des services civiques qui venaient régulièrement chez eux pour les aider à prendre en main les outils.
Chapitre 3. Changer notre regard. Concevoir pour les seniors peut parfois être entaché de biais agistes, cette discrimination fondée sur l'âge. Selon une étude de la Défenseure des droits, datant de 2021, 30% des personnes âgées de 65 ans ou plus déclarent avoir été témoins de discrimination liée à l'âge. Néanmoins, les avis de nos invités diffèrent sur l'impact de l'âgisme dans la société. Eva met en avant le poids des stéréotypes.
Le professeur Dominique Somme, qui est le chef de service gériatrie du CHU de Rennes, citait un exemple assez intéressant lors d'une conférence. Il parlait d'une expérience où, au bout du fil, il y avait deux personnes qui ne connaissaient rien l'une de l'autre. Ces deux personnes se parlent de façon normale, enfin sans hausser le ton, sans articuler plus que ça, plus qu'à l'habituel. Et ensuite, les deux personnes en question sont mises au courant de l'âge de l'un et de l'autre, enfin de l'une et de l'autre. Il s'avère qu'il y a au bout du fil une personne âgée, plus de 75 ans, et de l'autre côté, une personne beaucoup plus jeune. Cette expérience a révélé qu'une fois que la personne jeune apprenait que la personne au bout du fil était âgée, elle commençait à articuler, prendre du temps pour exprimer ses phrases et parler beaucoup plus fort que nécessaire. Et une fois que la personne âgée réalisait qu'en face d'elle, il y avait une personne jeune, elle faisait presque semblant de mal entendre. Donc en fait, les deux personnes, en étant au courant de la catégorie démographique de l'autre, d'une, changer d'attitude par rapport à l'autre, mais aussi changer d'attitude d'elle-même. Enfin, elle changeait presque leur propre capacité. Ce qui démontre aussi bien l'âgisme, mais en fait juste comment nos interactions peuvent être influencées par l'apparence, par l'idée qu'on se fait de quelqu'un. Donc d'une façon générale, les stéréotypes.
Antoine ne nie pas le phénomène, mais il le relativise.
Mon point de vue sur l'âgisme, c'est d'abord que ça existe. D'accord, y a pas de doute, y a un âgisme ambiant, généralisé, etc. Ensuite, deuxième point de vue, c'est que les plus âgistes, ce sont les vieux. Et je crois qu'il faut pas l'oublier, y a pas plus âgiste qu'un vieux envers un autre vieux. Ça, c'est très clair. Pour une raison qui est très simple, hein, qui est que on a une sorte de compétition interne à se vouloir moins vieux que les autres ou moins vieux que son âge, etc. Ensuite, l'âgisme peut avoir un impact important sur la vie. Néanmoins, et je vais nuancer ce point-là, on reste quand même sur une des discriminations qui est assez facilement, démontable. On est encore sur une discrimination dont les gens rient. Sur lesquels on fait des blagues. Alors après, c'est de l'agissement ordinaire, mais on voit une vieille au volant, c'est sûr qu'elle va prendre plein de remarques, etc. Disons que l'agisme, par rapport aux autres discriminations, comme le racisme ou le sexisme, par exemple, va porter assez peu à conséquence par rapport aux autres discriminations. Les enjeux sont moins importants, déjà parce que c'est souvent les vieux entre eux qui sont agistes, et donc le pouvoir d'action, pouvoir d'effet de l'un sur l'autre, est quand même assez limité. Là où ça redevient un problème, c'est quand, mais là du coup on est beaucoup beaucoup plus vieux dans l'âge, c'est quand on a des proches qui eux-mêmes font preuve d'agisme vis-à-vis de leurs parents, et vont se mettre à dire « Non mais maman, à ton âge, tu n'as pas changé ta cuisine, tu n'as pas déménagé, tu n'as pas retombé amoureux, etc. » Là, en effet, on est sur des choses qui vont vraiment avoir une sorte de portée à conséquence. Mais c'est un sujet qui m'importe parce que c'est le sujet sur lequel, c'est l'univers sur lequel je travaille. Mais faut relativiser, hein. Il y a des choses bien plus graves quand même, des discriminations qui sont pour moi bien plus impactantes que celles-ci, hein.
Nous avons questionné nos invités sur les principes éthiques qui dirigent leur travail. Lisa, Eva et Antoine répondent.
Déjà, l'éthique, c'est vraiment une valeur fondamentale du designer. Je parlais de Papanek tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment la responsable. Enfin, le designer doit être responsable des solutions qu'il propose et qu'il met en œuvre. Donc forcément, il y a cet aspect éthique à avoir toujours en tête. Forcément, quand on travaille dans le secteur du vieillissement, il y a des questions qui se posent puisque potentiellement on travaille pour une population vulnérable. Et on sait que ça peut être, on sait qu'il y a des détournements, il y a des abus qui sont faits auprès des populations vieillissantes. Donc je pense que c'est aussi, et là pour le coup, je pense que le fait d'être chercheur aussi, d'être chercheuse, c'est aussi un avantage pour moi, puisque ça me permet d'avoir toujours cette double casquette. À la fois, je suis designer dans une entreprise, mais à la fois, j'ai cette casquette de chercheuse qui fait que mon objectif principal, ça va être d'arriver à aboutir à des enseignements, à avoir des résultats probants pour voilà, pour soit pour publier ou soit pour créer avoir de nouvelles données.
Mon guide éthique, c'est premièrement de toujours privilégier l'humain. J'ai pas forcément des arguments contre tout ce qui est numérique, intelligence artificielle, etc. et nouvelles technologies, mais c'est vrai que parfois, on pourrait penser que la technologie nous sauvera, résolvera tous les problèmes d'organisation au sein du corps médical. Je pense notamment à des projets qui voudraient pousser la robotique auprès des personnes âgées, alors que parfois, il est juste question de rajouter un poste à cet endroit où il n'y a pas assez de monde, en fait. Il n'y a pas assez de salariés, en fait, où les métiers ne sont pas assez valorisés pour attirer du monde. Donc toujours favoriser l'humain. Et après, pour ce qui est de mon guide éthique en termes de production design, faire en sorte que les objets soient durables, aussi bien dans leur forme, parce que je questionne beaucoup les tendances dans ma pratique. Faire un objet qui serait trop marqué dans son temps le rendrait indésirable très rapidement. Essayer de faire de l'objet intemporel, c'est peine perdue. On est toujours marqué par son temps et par sa culture. Donc je me questionne aussi là-dessus. La question écologique, évidemment. Et la question de qui on fait travailler. Et je prône plutôt l'usage des matières issues de l'artisanat et les collaborations avec des artisans ou à petite échelle pour justement respecter ces questions.
Pour Antoine, l'éthique prend une importance particulière dans le domaine des produits et services destinés aux seniors. Il s'en explique.
Le premier principe éthique qui pour moi est vachement important, c'est que la personne est un adulte jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est à elle de prendre les décisions tant qu'elle peut. C'est le principe d'autonomie et ça, c'est un principe qui est inaliénable. On ne peut pas le retirer. Alors tu vas me dire, oui, mais si la personne est démente, si elle est plus capable de faire les choix par elle-même, comment est-ce que ça s'applique ? Eh ben, en effet, on va dire que c'est une sorte de limite à ce principe-là. Le premier manière, et qui est ma manière préférée de répondre à cette question, c'est de se dire, ok, aujourd'hui elle est plus capable d'exprimer en toute conscience ses choix, mais la personne qu'elle était avant, quel choix elle aurait fait? Pour moi, c'est ça le principe d'autonomie, ça jusqu'au bout. C'est le premier principe que je cherche à appliquer. C'est pas le seul, par exemple, j'ai un autre principe qui est important. J'estime qu'on n'a pas de devoir de protection envers les personnes âgées. Et que la personne, elle a le droit au risque. Il y a un droit au risque, elle peut faire ce qu'elle veut et on ne doit pas la protéger. Par contre, on a un devoir de prévention. Et ça, c'est important, le devoir de prévention, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire s'assurer que la personne a bien compris la portée de ses actes, la portée de ses choix, et qu'elle en ait bien conscience. Parce que prendre une décision, c'est simple, mais pour prendre une décision vraiment éclairée, en pleine autonomie, il faut aussi avoir compris les conséquences de ses actes, et si possible, les conséquences des conséquences de ses actes. Et donc là, on a en revanche un devoir, et ça c'est quelque chose de... un devoir de prévention, et ça c'est quelque chose de pour moi, d'assez important. Après, j'ai un autre principe qui est une sorte de contrebalancier au principe d'autonomie, c'est que on doit avoir une sorte de ce qu'on appelle non-malfaisance, mais le terme est un peu est pas très bien choisi, enfin c'est le bon terme, mais j'aime pas beaucoup le terme, qui consiste à dans le doute faire quelque chose qui ne soit pas négatif pour la personne. Et ça c'est déjà pas mal, et je préfère ça à une valeur qui est très courante dans notre secteur, qui est la bienveillance. Je me méfie beaucoup de la bienveillance parce que on peut prendre des décisions pour le bien de la personne et en se privant de lui demander son avis. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de lui prendre son avis. Et donc, moi, je préfère le principe qui est dans le risque. Prenons la décision qui est la moins engageante, qui a le moins de portée, jusqu'à ce qu'on puisse appliquer le principe d'autonomie.
Finalement, entre biais agistes, impératifs économiques et médicaux, reste-t-il encore une place pour des produits désirables ? Paul partage sa conviction sur le sujet.
Je pense que l'enjeu de désirabilité est à mon sens aujourd'hui essentiel, mais a été très longtemps négligé. Je pense que c'est lié au fait que le secteur de l'accompagnement des seniors est souvent très médicalisé, en tout cas vu par le prisme de la médicalisation. En gros, c'est des soins qui sont rarement choisis, en tout cas les méthodes de soins sont rarement choisies. On ne décide pas, on rentre un peu dans un pipe et on rentre dans un tunnel avec les différents intervenants et on est un peu baladé, je vais dire, en tout cas porté. Donc je pense qu'on est arrivé un peu avec cette vision-là sur le secteur de la silver economy, ou en tout cas sur les services et les biens que l'on peut proposer aux seniors, qu'ils soient en perte d'autonomie ou pas. Et donc on a encore aujourd'hui, et encore plus vrai il y a quelques temps, des produits qui sont souvent assez peu désirables. Et ça va aussi avec l'évolution des générations, là où les générations passées exprimaient difficilement leurs besoins, leurs souhaits. On retrouve aujourd'hui des seniors qui sont de plus en plus acteurs. Déjà, ce sont les grands consommateurs de notre société, mais on a des seniors qui expriment de plus en plus leurs souhaits et qui sont également plus exigeants.
Nos quatre invités se sont pliés à la question rituelle. Qu'est-ce que le bon design ? Nous entendons successivement Paul, Lisa, Antoine et Eva.
Je pense que le design, le care design est un élément de réponse au bon design à destination des seniors. Je pense que de manière générale, c'est prendre en compte les spécificités de l'individu, du futur utilisateur, lui permettre d'avoir accès aux produits, aux services ou autres de manière simple et faire en sorte que l'on améliore, ou en tout cas que l'on participe à l'amélioration de son quotidien. En gros, il faut qu'il soit utile, il faut qu'il soit bien pensé, et il faut qu'il soit respectueux dans sa conception.
Alors pour moi, le bon design, c'est un design responsable. C'est vraiment fondamental, je pense, quand on crée une solution, d'avoir conscience de ses impacts. Et donc de prendre en considération à la fois les usagers qui vont l'utiliser au moment où ils vont l'utiliser, et aussi les impacts que la solution aura a posteriori. Et donc ça revient aussi à se poser la question du respect de l'environnement, de la durabilité des solutions. Quand on parle d'une solution qui soit viable, désirable et durable, dans ces trois notions, on a à la fois la prise en considération des besoins, des envies des personnes, faire pour et avec les personnes. On a le design systémique, puisque pour le coup, on est obligé de prendre en considération le contexte, l'écosystème dans lequel on va mettre la solution. Et on a cette question de l'impact sur l'environnement. Est-ce qu'on est durable ? Est-ce que concrètement, si on multiplie cette solution ou si on la pense à grande échelle, est-ce que ça va pas détruire l'environnement ou en tout cas avoir un impact négatif même à plus petite échelle. Mais je pense vraiment que la responsabilité c'est la valeur essentielle que doit avoir le designer.
Le bon design c'est celui qu'on achète. On en revient à cette question fameuse que n'aiment pas beaucoup les designers parce qu'ils estiment que c'est pas de leur job que les gens achètent les produits qu'ils font. Moi je suis pas d'accord. Moi, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre la pertinence d'un produit et décider si oui ou non, il a suffisamment de valeur pour qu'ils y consacrent de l'argent. Et donc, pour moi, un bon design, c'est quelque chose que les gens achètent. Et si les gens achètent un produit qu'on trouve nul, alors on doit se questionner sur, OK, qu'est-ce que les gens ont vu que moi, je n'ai pas compris ? Et si les gens ils n'achètent pas mon produit, on doit se poser la question de, OK, qu'est-ce que j'ai loupé dans mon design pour que les gens ne comprennent pas ce à quoi ça sert. Pour moi, c'est hyper important de remettre le sujet autour de la décision d'achat. Un bon design, c'est celui que les personnes pour qui il est fait prennent une décision. Et la meilleure des décisions, la décision ultime, c'est la décision d'achat. Si je suis prêt à mettre une somme d'argent sur une solution, c'est que j'ai perçu la valeur. Donc un bon design, c'est ça.
Qu'est-ce que le bon design pour moi? Un design qui trouve sa place là où on l'a imaginé, qui a envie d'être utilisé par la personne, qui a une capacité d'affordance, qui est désirable et qui a un minimum si possible d'empreintes négatives pour l'environnement.